Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Quel dossier. Salut Jonathan.
Salut Catherine, comment ça va?
Ben ça va bien. Je sais que vous en avez parlé hier dans l'émission, je vous ai entendu. Mais pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas entendu ta position, que comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette situation-là à l'Université d'Ottawa?
Ben, j'ai envie de dire que ce dossier-là est comme une espèce de millefeuille, qu'il y a plein de couches qu'on peut analyser. Là, on peut en choisir l'une ou l'autre. Si je prends l'angle que tu abordais il y a un instant, je pense que sur le fond, la situation, elle est totalement inacceptable. Quand on pense que c'est une prof à l'université qui veut mettre en contexte l'évolution historique de mots qui ont eu des connotations ultra négatives, péjoratives, qui ont eu pour effet d'écraser des peuples et qui sont réappropriés par des gens pour leur donner une autre connotation. C'est d'ailleurs l'exemple qu'elle faisait aussi avec le terme « queer », par exemple. Je trouve que quand on prend le contexte dans lequel le mot a été utilisé, je ne m'explique pas comment on puisse assister à une réaction aussi épidermique. Et ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'université devrait être le dernier rempart, l'endroit où on veut pouvoir être capable de débattre, et là, on se rend compte qu'on n'est même plus capable de le faire. Moi, je disais à la blague la semaine dernière qu'on est très, très loin de la société des poids disparus, là, du film là où on voit des échanges, on voit des idées qui jaillissent du débat, etc. Je trouve ça navrant. Je trouve ça aussi assez déprimant de voir qu'il y a des gens qui se drapent dans une certaine vertu qui eux-mêmes vont contribuer à instaurer un climat très, très, très violent verbalement. On parle de diffuser l'adresse de la prof, de la lyncher en public, etc. Je trouve ça fort déplorable. Par contre, moi, l'autre couche du millefeuille que je voulais aborder avec toi, c'était les limites de la liberté d'expression. Parce que on parle beaucoup de liberté d'expression depuis quelques jours en raison de trois exemples en particulier. Évidemment, celui de l'Université d'Ottawa, mais on parle aussi de l'exemple du prof français qui a été décapité parce qu'il a montré des caricatures de Mahomet dans sa classe. Et on a parlé aussi, par exemple, de quelqu'un comme Alexis Cossette-Trudel qui a vu ses sites Facebook, YouTube être fermés. Et là, il y a des gens qui font des amalgames que je trouve fort douteux, qui disent comment se fait-il que même le premier ministre du Québec, par exemple, va vanter, défendre la liberté d'expression des enseignants à l'université, mais va se réjouir du fait qu'il y a des conspirationnistes qui voient leur site Internet être fermé ou qui va blâmer, par exemple, des radios qui tiennent des discours qui sont fort douteux depuis des mois et des mois. Et là, ils disent comment se fait-il que ça s'applique dans un, ça s'applique pas dans l'autre. Je m'excuse, mais il y a une différence qui est fondamentale. Premièrement, Catherine, pour moi, la liberté d'expression, ça demeure un privilège et non pas un droit inaliénable. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, ça veut dire le droit de critiquer, ça veut dire le droit de se faire entendre, ça veut dire le droit d'être dans la marge, ça veut dire qu'on a le droit de parler des religions, qu'on a le droit de les analyser, de les critiquer. Par contre, ça veut pas dire qu'on a le droit de désinformer, de fomenter la haine, d'induire une population en erreur, surtout lorsqu'on est dans une situation, par exemple, de risque pour la santé publique et qu'il y a des gens qui représentent un risque pour le maintien de notre santé publique, pour l'équilibre dans nos soins de santé, etc. Je m'explique mal qu'il y ait des gens qui soient pas capables de faire la différence entre ces types de liberté d'expression-là. Il y en a une qui se doit d'être balisée et tant mieux s'il y a des autorités qui sont capables de le faire.
Parce que Jonathan, en lien avec ce qui se passe actuellement, là, tu fais le lien avec la pandémie et les sites qui ont été fermés, parce que pour moi, il y a une grande différence, puis je pense que même le premier ministre l'a dit, puis Dr. Arruda l'a même dit, tu sais, le droit à la manifestation, le droit de challenger, d'être inconfortable avec une mesure, de sentir que nos libertés sont réduites, on a le droit d'échanger là-dessus. Par contre, à partir du moment où tu dis en ondes des faussetés, où tu vas carrément dire que la pandémie n'existe pas, le problème, il est là. C'est pas de challenger des idées, puis parce que, tu sais, ce matin, on pourrait pas être d'accord, puis dire, hey, regarde, tu sais, faire valoir nos points, ça va. Mais là, à partir du moment où tu dis en nom des choses qui sont fausses, là, on a un problème.
Exactement. Parce que qu'on vienne, par exemple, questionner à savoir, bon, est-ce qu'on privilégie les bons secteurs d'activité? Est-ce que c'est normal qu'on ferme les restaurants, mais qu'on maintienne les centres commerciaux ouverts? Pourquoi les enfants vont à l'école, mais ne peuvent pas pratiquer leur sport? Est-ce qu'on en fait trop? J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, c'est sain parce que, en plus, pour avoir déjà été au gouvernement, je peux te confirmer, puis tu t'en doutes bien, puis les auditeurs s'en doutent, ouais, que le gouvernement se nourrit un peu de ça, du débat public. Il regarde ce qui se passe dans le public, il prend le pouls de la population, puis essaye de s'ajuster. Oui, il y a la science, passe, mais il y a aussi le feeling, le pool politicien qui regarde ce qui se passe dans la population. Donc, c'est bien de remettre en question l'ordre établi, de poser des questions. Sauf que lorsqu'on véhicule des faussetés, lorsqu'on vient nier des évidences, par exemple, qu'on dit qu'il n'y a pas de deuxième vague, que la pandémie, c'est une fabrication, que le gouvernement a une espèce de plan machiavélique qui veut juste vous confiner, qui veut juste fermer l'économie, alors qu'on s'explique mal pourquoi il voudrait faire ça, là, ça, ce n'est pas acceptable. Donc, de là, ma prémisse de dire que ça demeure un privilège, la liberté d'expression. On doit chérir ce privilège-là. On doit en prendre soin. Et lorsqu'il y a des dérapages, on se doit les pointer du doigt puis tenter de les contenir.
Mais en même temps, tu trouves pas des fois que la ligne est difficile à tracer? Parce que je nous ramène à l'histoire de Mike Ward. Tu sais, veux pas, c'en était un exemple, ça, de liberté d'expression. Dieu sait qu'il a martelé ça à plusieurs reprises. Tu trouves pas des fois, justement, que la ligne est dure à tracer?
Ce qui se dit,
c'est-tu de l'acharnement? J'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le penser, t'as pas le droit de m'en empêcher. Tu comprends? C'est pas toujours évident, je trouve.
Ben moi, dans ce sens-là, souvent, je vais dire que la liberté d'expression, ça va dans les deux sens. En fait, la liberté, le concept de liberté va dans les deux sens. C'est-à-dire que Mike Ward, par exemple, on fera pas tout ce débat-là, mais Mike Ward a le droit de faire des blagues qui sont douteuses, qui sont questionnables sur, par exemple, le petit Jérémy. Sauf que, sais-tu quoi? Le petit Jérémy a le droit de le poursuivre. Il y a des gens qui ont le droit de tenir des propos qui sont complètement débiles sur les ondes de la radio. Par exemple, on le vit ici, nous autres, dans la région de Québec. Ben la liberté, si vous prenez la liberté de ces gens là de dire ça, ben moi je vais prôner ma liberté de les dénoncer haut et fort et de dire à quel point je trouve que c'est dangereux, que c'est absurde et qu'à la limite, à un moment donné, il faudrait peut-être s'assurer qu'on ne dépasse pas les bornes lorsque, comme je le disais, on vient outrepasser le ce qui est acceptable en termes de liberté d'expression. Ça veut dire que moi, j'ai le droit de le dire aussi. C'est ça aussi
la
liberté.
Absolument, tout à fait. Hey, Jonathan, en terminant, puis je le disais un petit peu plus tôt, je réponds beaucoup aux auditeurs, on échange, même la fin de semaine, j'aime ça avoir le ressenti, comment les gens se sentent et actuellement, puis c'est un peu en lien avec ce que M. Legault disait, il y a un essoufflement, il y a une fatigue actuellement. Même, je disais ce matin, nous, il faut faire attention, il faut un peu alterner entre nos sujets parce que les gens sont un peu fatigués de la COVID, fatigués de ce qu'on vit. C'est un peu ça le message qui a été lancé hier. Hein.
Ah, je pense que oui, puis on l'a vraiment senti. On analyse François Legault là, à chacun de ses points de presse comme un médecin dans un suivi d'un dossier médical qu'à chaque fois on dit je vais regarder sa face, je vais essayer de comprendre ce qu'il essaie de me dire. François Legault, je parlais de gouvernements qui doivent et qui sont capables de sentir, de prendre le pouls de la population. Je pense qu'il le sent, qu'il y a un essoufflement. Là. Oui. On le sent tous, ne serait-ce que la clarté. Là, je te parle, je suis au bureau en ce moment, Catherine. Là, ce matin, j'ai amené ma lampe de luminothérapie. Je viens au moment où je te parle, j'ai un gros soleil en pleine face parce que la déprime saisonnière, comme bien des gens, moi, ça m'atteint de plus en plus à chaque année. Et là, en plus de ça, on est dans une période de pandémie, dans une période d'incertitude. On ne sait pas comment ça va se passer. Et là, il y a tout cet équilibrage-là que le gouvernement doit faire entre sentir l'essoufflement, essayer de voir comment on peut aider les gens à toffer encore un petit bout. Là, on parle, par exemple, des sports étudiants. Est-ce qu'on ne pourrait pas annoncer certains allègements pour la période des fêtes, mais aussi s'assurer que l'objectif demeure le même, endiguer la crise. Donc, le gouvernement doit garder les yeux sur la balle, comme on dit, même s'il sent l'essoufflement. Par contre, en lisant le devoir ce matin, doivent être légèrement rassurés en voyant que leurs taux d'approbation sont encore à des niveaux records, 74 % de taux de satisfaction, 50 % dans les intentions de vote. Il n'y a pas péril dans la demeure, là. Donc, faire de l'équilibrage, être conscient de ce qui se passe, de l'écœurant, du sentiment d'écœurement des gens, mais aussi de garder l'objectif en tête.
Absolument. Jonathan, on vous écoute à partir de 10h, c'est toujours bien le fun. À mercredi prochain.
Merci Catherine, salut.
OK, bye-bye. Jonathan Trudeau avec Jérôme Landry entre 10h et midi. Ça s'appelle Trudeau-Landry, donc c'est bien sûr la transition entre l'émission que vous écoutez et celle de Robert Midi+.